RCF.
Michel Sauquet, vous parliez précédemment des vérités glissantes qui sont apparues, qui ont surgi au cours des mois où la pandémie de Covid a explosé, au moment du confinement, avec les diverses annonces qui ont été faites à la fois par les médecins, par les politiques, etc. Et puis du coup, le doute qui a surgi aussi à travers tout ça. Est-ce que vous considérez que la foi fait partie aussi des vérités glissantes ?
Alors non, je ne dirais pas ça. Mais je constate qu'avec les textes sacrés, on est un peu sur des terrains mouvants. On imagine par exemple que tous les textes ont été écrits dans l'ordre où ils sont présentés dans la Bible. On imagine que leurs auteurs sont bien leurs auteurs, en tout cas leurs auteurs uniques, etc. Mais les études, les recherches récentes ont montré à quel point ça n'était pas si simple. Et dès le XVIe siècle, Pascal disait quelque chose de très très déstabilisant, je trouve. Il disait « Nous voguons sur un milieu vaste, toujours incertain et flottant, poussé d'un bout vers l'autre. Quelques termes où nous pensions nous attacher et nous affermir, il branle et nous quitte. Et si nous le suivons, il échappe à nos prises, nous glisse et fuit d'une fuite éternelle. » Vous avouerez que c'est un peu déstabilisant tout ça.
Oui, et puis c'est à peu près tout le contraire de ce qu'on imagine être... Alors je parle peut-être pas de foi maintenant, mais de religion.
Oui. Au fond... De Dieu, de son dessein, de la vie de Jésus, je pense que nous n'avons que des fragments d'une connaissance approximative et diffuse. François d'Assise, dans son langage tellement fleuri, disait de Dieu qu'il était certes sublime, suave, aimable, désirable, délectable, mais aussi invisible, inénarrable, ineffable, incompréhensible, insondable. C'est François d'Assise qui disait ça.
Donc ça veut dire que Dieu, la foi, le Christ, tout ça nous échappe en permanence ?
Et oui, c'est difficile à saisir, et pourtant nous croyons. Parce que notre spiritualité, en fait, elle naît, elle se développe dans l'incertitude et dans le flou. Et elle ne parvient à se fixer, grâce à l'action de l'esprit à nouveau, que par des rapprochements, la mise en perspective, rapprochement des sensations, des événements, de ce qu'on peut lire. Ça me fait penser un petit peu à l'écriture chinoise qui ne prend sens que quand on met les uns à côté des autres des signes et que tout d'un coup tout est clair. Et c'est l'esprit qui nous aide à éclairer ça.
Le risque là, c'est de choquer peut-être certaines personnes qui disent, elles, avoir une certitude. C'est-à-dire qu'elles ont fait l'expérience de Dieu et c'est devenu une certitude. Dieu existe, je l'ai rencontré.
Alors, peut-être ne pas avoir ressenti cela personnellement, ne pas avoir eu ce chemin de Damas, cette expérience-là, ce qui ne m'empêche pas du tout de croire profondément. Peut-être que pour ne pas avoir eu moi cette expérience, je ne pense pas spontanément que ce soit facile d'avoir cette certitude, mais je le respecte complètement. Je le respecte complètement et je suis heureux que, oui, Dieu existe, je l'ai rencontré, je suis heureux que les uns et les autres qui ont eu cette certitude-là à un moment donné la partagent. Mais on peut l'avoir eu, cette certitude. Après tout, oui, peut-être moi je l'ai eu de temps en temps, à certains moments.
Mais elle n'empêche pas le doute, parfois, après.
Mais elle n'empêche pas le doute. Elle n'empêche pas le doute quand on voit, regardez, Saint Jean de la Croix, le docteur des nuits, comme on l'a dit, tellement torturé par le doute, mais ayant eu ces moments certainement de certitude et comprenant que le doute, c'est une épreuve salutaire pour lui, que ça le délivre de lui-même. Ça annihile sa prétention à croire par lui-même, à la force du poignet. Et finalement, ça purifie sa foi. Regardons Mère Teresa, qui l'avoue dans ses lettres à ses directeurs de conscience, il ne veut pas de moi, il n'est pas là. Et pourtant, elle l'a bien rencontré. Et on a beaucoup d'autres exemples, Édouard Leclerc, Marie-Noël, Bernanos qui nous dit « La foi, c'est 24 heures de doute, moins une minute d'espérance. »
Donc ce sont vraiment des témoignages et puis une réalité très inconfortable. Vous parlez oui. D'inconfort d'ailleurs dans votre livre en citant aussi la protestante Marion Müller-Kollar et son intranquillité. liée à la foi. La foi, ça rassure pas, ça ne réconforte pas.
Alors, je pense que ça, ça réconforte, mais ça n'apporte pas de confort. La foi n'est pas une sécurité, un cocon. La foi n'a pas réponse à tout. Et comme on l'a dit précédemment, beaucoup de chrétiens se sont longtemps contentés finalement d'une attitude de soumission passive, d'une sorte de foi par procuration, en répondant à cette règle simple, croire ce que croit l'Église. Et pour nous, la tentation, c'est de vivre d'une spiritualité qui ne ferait qu'apaiser, que sécuriser, ce que j'appellerais une spiritualité plan-plan. Boris Cyrulnik a été très loin là-dedans, je trouve. Ça fait réfléchir, mais en même temps, on peut tout à fait ne pas être d'accord là-dessus. Mais il disait qu'il voyait dans la religion un précieux facteur de santé mentale susceptible de calmer la peur de vivre. Moi, ça me fait peur, ça, du coup.
Pourquoi ça vous fait peur, Michel Socquet ?
Ça me fait peur de penser que nous pourrions ne vivre, ne voir dans la foi qu'un médicament, quelque chose qui nous calme. Simone Veil avait là-dessus des paroles fortes, je trouve, hein, sur l'absence de risque qui suscite, disait-elle, une espèce d'ennui qui paralyse autrement que la peur d'ailleurs, mais presque autant. Elle disait « L'absence de risque affaiblit le courage au point de laisser l'âme, le cas échéant, sans la moindre protection intérieure contre la peur. » Alors cette protection intérieure, à nouveau, c'est celle que nous apporte l'esprit qui vient en nous et qui nous permet de diminuer nos peurs. Mais on a tous un peu peur, oui, bien sûr, évidemment, surtout en ce moment.
Alors qu'est-ce que c'est que la foi, finalement ? Cette foi qui inclut le doute et, pour reprendre une expression qui est citée dans votre livre et que beaucoup d'auteurs utilisent, « je doute, donc je crois ».
Je crois que le doute est partie intégrante, en fait, de toute recherche de vérité, de toute relation humaine. Joseph Moin, qui nous a quittés lui aussi il y a quelque temps, disait tantôt « Ce doute, on le laisse suivre son chemin, si troublant qu'il soit, car on sent qu'il conduit au vrai. Puis tantôt, on le bouscule, on l'écarte de sa route, parce qu'il empêche d'avancer. » Et il dit « Je vois mal comment la foi pourrait lui échapper, elle qui se meut au-delà du visible, le doute fait partie de la foi. » Pour moi, il n'y a pas de quoi être troublé. Parce que, après tout, si je crois en Dieu, est-ce que c'est pas par définition que je n'ai aucune certitude sur son existence ? Sinon, je dirais pas que je crois en Dieu, mais que je sais Dieu. Et quelle présomption, alors ? Oui, je crois qu'il faut avoir l'humilité de dire qu'on ne sait pas, qu'on ne peut pas tout savoir, qu'on n'est pas des super-héros, loin de là. Et puis, encore une fois, je pense qu'on peut à certains moments avoir des certitudes. Peut-être que je reviens un petit peu sur ce que je disais, sur mon expérience personnelle. Je pense qu'à certains moments de ma vie, oui, j'ai eu des moments de certitude, et puis que ils se sont un peu éloignés, un peu évanouis, ils n'étaient peut-être pas assez forts pour me tenir debout tout le temps. Et je pense que je peux me consoler en me référant à ces grandes figures mystiques du doute dont j'ai parlé tout à l'heure. Hein, et tout le monde a connu ça.
Et de l'Esprit Saint aussi, parce que vous y faites beaucoup référence.
Oui, parce que je crois que sans lui, on n'arrive à rien. Quoi. C'est cette idée de la foi, la force du poignet. Il y a dans le livre une citation de Os Guinness qui raconte une de ses promenades dans la campagne italienne et un paysan qui bat son âne, qui veut pas avancer, tellement fort que finalement l'âne finit par tomber, s'effondrer. Et il dit « Mais au fond, notre foi, de temps en temps, on la bat. On veut y arriver par nous-mêmes. » Et elle finit par s'effondrer parce qu'on l'a trop battue. Et ce qui permet à notre foi de ne pas s'effondrer, c'est précisément l'obstination, je dirais, de l'action de l'esprit en nous, me semble.
On voit aussi quelquefois la foi comme une autoroute, un chemin tout tracé, bien propre, bien net. Est-ce que on n'est pas plutôt du côté des sentiers et quelquefois même des sentiers à tracer soi-même?
Je ne sais pas si vous avez eu l'expérience de, moi je l'ai eu, mais il y a très 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 longtemps, on pourrait plus le faire maintenant, mais de voyager en voiture dans le désert. On est sur une route goudronnée. Alors si on fait attention au nid de poule, ça roule à peu près bien, c'est tranquille. Et puis tout d'un coup arrive la piste, et ce qu'on appelle la tôle ondulée, une espèce de la tôle ondulée en réalité. Et puis la voiture se trouve complètement pris de chaos dans tous les sens. Je pense que la foi, c'est un petit peu ça. Il y a des moments où on est sur cette route, peut-être pas sur cette autoroute, puis d'autres où on se retrouve sur des chemins escarpés, compliqués, difficiles, qui font que de temps en temps, on a envie d'arrêter, de s'asseoir, de retrouver la route. Et puis, là encore, peut-être que l'esprit nous aide à aller de l'avant, comme ce prophète qui s'asseyait près d'un buisson et qui demandait à Dieu, écoute, je suis épuisé, laisse-moi mourir ici. Et Dieu l'aide à continuer sa route, à se relever.
On poursuit notre route avec vous, nous, demain. Merci beaucoup.
Merci.